RCF.
Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous, courez de manière à l'emporter, nous exhorte l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. En prenant l'exemple des courses de stade, il nous explique que la vie chrétienne est une sorte d'épreuve sportive dont l'objectif est non pas de gagner une couronne de laurier qui se flétrit, mais rien de moins que la vie éternelle. Associer sport et foi ne serait donc pas complètement hors de propos, mais au contraire nous permettrait de mieux comprendre que l'ascèse joyeuse, caractéristique de la vie chrétienne, permet de forger en nous l'homme ou la femme intérieure afin de faire grandir le Christ, sa bonté, son humilité, sa persévérance. Alors certes, courir derrière un ballon ne signifie pas que nous pratiquions parfaitement et totalement les béatitudes évangéliques, mais pourtant la pratique du sport comme le football et bien d'autres encore fait partie de ces entraînements du corps qui peuvent être des terrains privilégiés de fraternité, d'entraide ou de justesse. Alors jusqu'à 10h sur RCF, chaussons nos crampons, un coup de sifflet et c'est parti. Notre rencontre peut commencer.
Le temps de le dire. Présenté par Antoine Bélier.
Et si on évoque ce sujet ce matin dans le temps de le dire sur RCF, c'est dans la perspective du 14e tournoi national de football interséminaire qui est organisé cette année par le séminaire Saint-Irénée de Lyon à l'occasion de son 350e anniversaire. C'est donc en duplex de la capitale des Gaules que j'accueille mes trois invités du jour. Père Grégoire Kornprops, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel, vous êtes le supérieur du séminaire provincial Saint-Irénée de Lyon. Le sport, je crois, a été capital dans votre formation, vous nous le direz. Vous pratiquez le tennis, le handball, la natation et le ski et votre équipe de football préférée, c'est l'AJ Auxerre, n'est-ce pas?
Oui, alors c'est un peu à mon avantage, votre présentation tout de même.
Timothée Besson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes séminariste pour le diocèse de Lyon en troisième année du second cycle. Votre ordination diaconale se profile, je crois, en septembre prochain. Vous êtes, vous, un supporter inconditionnel de l'Olympique Lyonnais?
Toujours.
Toujours. Augustin Roquefort, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également séminariste pour le diocèse de Lyon. Vous êtes en deuxième année du premier cycle et votre sport préféré à vous, c'est pas le football, c'est le tennis.
Et oui, qui est un sport admirable aussi.
Et vous êtes admirateur notamment de Novak Djokovic, rien de moins. Alors, fan de football ou simplement intéressé par la manière dont les valeurs du ballon rond et du sport en général peuvent nous faire comprendre ce que représentent les exigences et la beauté du dépassement de soi de la vie chrétienne, vous êtes chacun de vous à l'écoute de cette émission. Les bienvenus sur RCF. Vous avez la parole comme chaque jeudi. Le standard ouvrira à partir de 9h30.
C'est le temps de le dire sur RCF.
Alors Père Grégoire Kornprops, quel est l'intérêt d'un tel tournoi de football interséminaire?
Alors il y a plusieurs intérêts. D'abord, c'est un intérêt pour le séminaire lui-même, pour la communauté des séminaristes lui-même, parce que organiser un événement comme ça, c'est motivant. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient dans l'année motiver l'ensemble des séminaristes. Parce que il y a 350 séminaristes qui vont débarquer là à Lyon pour le séminaire, pour le tournoi de football, ce qui est pratiquement la moitié des séminaristes en France, presque, peut-être un peu moins de la moitié, mais pas loin. Donc c'est quand même, il y a quand même une organisation derrière et ça donne un élan, ça donne quelque chose d'intéressant en tout cas pour construire aussi la fraternité et l'unité au sein même de la communauté du séminaire Saint-Irénée.
Alors Timothée Besson, qu'est-ce qui va s'y vivre concrètement? J'imagine des matchs avec des équipes constituées de séminaristes de différents séminaires. Il y a que du football proposé?
Alors non, il y a aussi un tournoi de pétanque dont le séminaire Saint-Irénée a remporté la coupe l'année dernière. Donc on y tient. Il y a bien sûr donc l'événement principal le samedi, ça va être le tournoi de foot. Donc on a 25 équipes qui vont s'affronter. Donc il y aura des poules et puis une phase finale. Et puis en parallèle, du coup, un tournoi de pétanque pour les amateurs du jeu de pétanque. Voilà.
Est-ce que les inscriptions ont été nombreuses? Est-ce qu'il y a eu du répondant? Parce que c'est vrai que j'imagine que c'est libre, c'est pas une obligation que de participer à ce tournoi. Les séminaristes en France jouent le jeu véritablement au sens propre comme au sens figuré, Augustin Roquefort?
Alors oui, tout à fait. Il y a beaucoup de séminaristes qui ont répondu présents. Il faut savoir aussi que la particularité de ce tournoi aussi cette année, c'est qu'il y aura beaucoup de religieux. notamment les communautés plus locales. Je pense aussi aux Dominicains, par exemple, qui vont former une équipe commune entre les Dominicains de la province de Toulouse et ceux de la province de France. Donc il y a vraiment aussi cette dimension d'unité dans les communautés de l'Église aussi nationale. Et alors voilà, des séminaires qui ont répondu de partout en France. Il y en a qui viennent de Nantes, de Paris, de Lorraine, de Toulouse, de Vénasque, à côté de Carpentras. Et voilà, partout en France, hein, c'est des exemples. Bien sûr, il y aura des absents, malheureusement, pour cause tout simplement d'indisponibilité ou de complexité à venir à Lyon. Mais en tout cas, oui, les séminaires et les séminaristes sont particulièrement motivés. On a eu quelques échos, effectivement, où ils s'entraînent depuis très longtemps.
C'était la question que j'allais vous poser. Comment on se prépare à un tel événement? Il y a véritablement des entraînements toutes les semaines, justement, dans le but de remporter ce tournoi.
On a notamment une équipe qui nous envoie par correspondance de temps en temps le fait qu'ils ont engagé un coach professionnel. Qui sont passés à deux entraînements par semaine pour pas c'est le séminaire de Notre-Dame de Vie, donc on les attend de pied ferme. Mais alors à Lyon c'est plus simple, c'est un entraînement chaque semaine tout au long de l'année. Voilà, on a un entraînement de 2 heures.
Et finalement, c'est l'occasion, Père Grégoire Kamprops, de remettre le sport au centre aussi. Alors, je ne sais pas si c'est au centre, en tout cas comme faisant partie vraiment de la formation de ces futurs prêtres.
Alors non, le tournoi n'est pas l'occasion de mettre le sport dans la formation, parce que le sport est déjà dans la formation. Voilà, c'est plutôt un petit peu la cerise sur le gâteau. On est heureux de participer à cet événement. On est heureux au jour de cette année de l'organiser. Et je trouve ça une très bonne chose qu'il y ait cet événement chaque année. Mais le sport fait partie, enfin en tout cas à Lyon, mais c'est le cas, je pense, dans beaucoup de séminaires, fait partie de la formation. Oui, il est important.
Mais c'est vraiment dans les statuts, j'allais dire, dans la ratio des séminaires, c'est-à-dire qui indique quelles sont les exigences au cœur de la formation des futurs prêtres.
Alors dans les statuts peut-être pas. En tout cas, ce sur quoi on insiste énormément, c'est sur la formation humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation de prêtre, il n'y a pas de formation même, je dirais, spirituelle, qui ne s'appuie d'abord sur un équilibre humain, une formation humaine. Et dans la formation humaine, alors, il y a des tas d'éléments, mais je dirais le sport en fait logiquement partie. C'est-à-dire que en étant un jeune homme de entre 20 et 30 ans, et qui plus est, en passant une bonne partie de sa journée derrière une table pour travailler, il est important, il est bon, il est équilibrant d'avoir des moments où on peut transpirer, quoi, où on puisse courir, où on puisse honorer les besoins de son corps.
Alors, on parlera en fait des valeurs du football dans quelques instants après la pause musicale, mais j'aimerais vous poser encore quelques questions sur le tournoi en tant que tel interséminaire et savoir qu'est-ce qu'on gagne finalement, parce que certes, on sait que l'important c'est de participer, c'est ce qu'on entend souvent, mais il y a aussi un prix, j'imagine, à obtenir, et c'est lequel ?
Alors, très simplement, une coupe. et l'admiration de tous les autres séminaires de France et toutes les communautés.
Ce
qui est énorme. Évidemment. Non, et la fierté aussi d'avoir travaillé ensemble en séminaire, en équipe, jusqu'à cette victoire. On espère que ce sera la meilleure équipe qui gagnera, évidemment.
Un mot concernant votre rapport personnel au football. Alors, j'ai dit quelques mots dans la présentation. Augustin, c'est pas forcément votre sport préféré. Pour autant, c'est un sport qui fait consensus. En fait, c'est pour ça que vous proposez ce sport-là pour cet événement.
Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est un sport collectif. Donc c'est un intérêt assez particulier et assez important aussi dans un séminaire. C'est le lieu où on se confronte aussi entre frères. Parfois ça peut chauffer. Parfois de remporter une victoire, c'est aussi on va dire une forme d'union. Hein. Il y a une unité qui se forme à travers cette victoire. Et effectivement, du coup, c'est le sport qui est proposé, le sport collectif qui est proposé. On a un stade à côté du séminaire, donc c'est assez simple aussi de se rendre à ce sport-là. Et moi, alors c'est vrai qu'il ne pratique pas de manière, on va dire, passionnée le football, mais qui a repris goût, notamment avec le séminaire. J'y vois, et on en reparlera a priori, des points positifs majeurs Et notamment pour ceux qui sont un peu moins bons comme moi, eh ben l'humilité, ma foi, ça fait pas de mal.
L'humilité, bon, alors mais... on parlera des valeurs, mais quand même un autre mot, Père Grégoire et puis Timothée sur le football en tant que tel. Ça c'est un sport que vous appréciez, que vous regardez, qui encore une fois fait consensus.
Alors oui, c'est un sport que c'est un sport que j'apprécie effectivement, que je regarde quand je peux. Oui aussi. Excusez-moi, je voulais revenir un tout petit peu en arrière en disant l'essentiel c'est de participer. Oui, alors l'essentiel c'est de participer en vue de gagner. Je dirais pas que l'essentiel c'est de gagner, parce que je crois qu'effectivement l'essentiel c'est d'être généreux sur le terrain et de donner tout ce qu'on peut. Mais donc c'est pas simplement de participer à un événement, on est heureux d'y avoir été. Non, on y participe pour gagner en vue de gagner.
Il y a un but et un objectif.
Ouais, et c'est important parce que je pense que cet objectif permet à chacun de donner le meilleur de soi. Et donc c'est aussi l'intérêt que je vois à un tournoi, donc pas seulement la pratique du sport, mais une pratique où il y a une compétition. C'est pas le fait de gagner, parce que si c'était seulement de gagner à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il y a des règles? Donc c'est de gagner de telle sorte, c'est de participer pour gagner. Je sais pas si la distinction...
Oui, effectivement, et j'ai cité l'apôtre Paul en introduction de cette émission, et il nous parle bien d'obtenir un prix, hein, Timothée, même si c'est une couronne de laurier qui ne se flétrit pas, mais c'est une couronne quand même.
Alors là, la coupe, elle est en métal, donc elle ne se flétrira pas. Mais c'est vrai que, par exemple, le séminaire Saint-Irénée, ça fait un petit moment qu'on échoue pas très loin du podium. Sur le podium, en tout cas.
Qu'est-ce qui vous manque alors,
voilà,
pour gagner?
Eh bien, il nous manque un poil de réussite. Hein, mais là, cette année, je le sens bien là.
Bon, écoutez, on va continuer de parler en tout cas de football dans cette émission. N'hésitez pas à intervenir, vous qui nous écoutez. Ce sera à partir de 9h30. C'est l'horaire de l'ouverture du Standard. On écoute un petit peu de musique. C'est l'hymne de la Ligue des Champions. À l'instant, l'hymne de la Ligue des Champions. La musique de cet hymne a été composée par Tony Britton.
Neuf heures, dix heures, c'est le temps de le dire sur RCF. RCF.
Le ballon rond est à l'honneur ce matin dans le temps de le dire sur RCF à l'occasion d'un événement sportif un peu particulier, un tournoi de football interséminaire réunissant à Lyon près de 300 prêtres en formation. Pour nous en parler, le supérieur du séminaire provincial de Lyon, le père Grégoire Camprops, et deux séminaristes du diocèse de la capitale des Gaules, Augustin Roquefort et Timothée Besson. Alors on en a un petit peu parlé, mais j'aimerais approfondir pourquoi, père Grégoire, le sport en général et le football en particulier, le football peut être un lieu d'apprentissage de l'humilité.
Alors d'abord parce que c'est un sport d'équipe, donc on est aussi au service de l'équipe et on ne cherche pas sa propre gloire, on ne cherche pas à se faire briller, mais on cherche à mettre en valeur l'ensemble des qualités de chacun pour arriver au meilleur résultat. Donc ne serait-ce que parce que c'est un sport d'équipe, je dirais la vertu d'humilité est nécessaire. Ensuite, il y a l'humilité par rapport aux résultats, c'est-à-dire que, alors, en particulier dans le football où les scores peuvent être assez serrés et où des équipes de force de différence assez grande peuvent avoir pour autant des résultats assez serrés, c'est-à-dire que le résultat n'est pas toujours à la hauteur des efforts qu'on a fait, de ce qu'on espère. Donc là aussi, ça apprend le réalisme en fait de la compétition sportive ou du match. Eh ben, apprend aussi l'humilité. Et puis encore une autre chose pour ceux qui sont bons techniquement, pour ceux parce que au séminaire, tout le monde n'est pas non plus des sportifs de haut niveau. Et pour autant, on joue ensemble. Il y en a qui y viennent y jouer vraiment plus en dilettante, d'autres avec beaucoup de conviction et beaucoup de compétences. Et donc, d'une certaine façon, les meilleurs aussi apprennent l'humilité ou la patience en acceptant que d'aller aussi au rythme de ceux qui sont moins performants.
Les meilleurs, d'une certaine façon, se mettent au service des plus faibles, on peut dire ça, Timothée ?
Alors, c'est bien quand ça marche.
Mais c'est pas toujours le cas.
Bah, ça peut. Il y a des jours plus difficiles, mais.
Parce que finalement, on peut dire que les gens quand même se révèlent hein, dans le jeu de façon générale.
Alors ça, c'est vrai que le football est un révélateur fraternel très important et ça peut être pour le séminariste lui-même un bon curseur en fait. Quand il y a une période de tension au séminaire, etc. Et ben généralement, ça va se révéler beaucoup plus facilement dans le sport parce qu'il y a des contacts, parce que quand on est agacé, on s'agace d'abord soi-même et du coup, on va très vite s'agacer contre les autres. Donc voilà, c'est un très bon révélateur et ça peut être un point d'attention quand on voit que au foot, tiens, aujourd'hui j'ai beaucoup crié, ça peut être le moment de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui va pas en ce moment quoi.
Il y a des digues finalement dans le sport qui sautent, Augustin Roquefort.
Alors oui, tout à fait. Effectivement, c'est révélateur de pas mal de choses. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, on peut se reprendre dans une juste correction fraternelle, mutuellement, et on grandit ensemble, aussi humainement, sportivement, physiquement. Ça, c'est important. Ça contribue à l'équilibre, je pense, de la personne humaine. Mais voilà, aussi dans cette humanité faite de caractères très différents, bien trempés ou un peu plus discrets.
Finalement, père Grégoire, on fait l'expérience de la fraternité dans ce qu'elle a de plus réaliste. La fraternité, c'est pas une forme d'irénisme, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Alors, c'est un des lieux, c'est pas le seul, mais c'est effectivement un des lieux où on met, où concrètement est vécu les liens fraternels. Oui, c'est vrai, et c'est un des lieux où concrètement, comme l'a dit Timothée et Augustin, les relations fraternelles sont révélées dans leur état actuel. Oui, ça c'est vrai. Pour le meilleur, et puis aussi parfois dans leur tension.
Oui, mais là encore, c'est le réalisme de la fraternité, hein, j'imagine, Timothée, qui est expérimenté. Le réalisme qui va pas sans, vous l'avez dit, tension, dissension parfois, mais pour autant, la fraternité n'est pas absente.
Non, c'est vrai, et même c'est très beau parce que on apprend à se connaître aussi à travers ces moments de sport. Ça veut dire que on a certains frères avec qui il va falloir dire les choses très directement et très simplement et y aller tout de suite, il faut pas tourner autour du pot. Il y en a d'autres, ça va pas marcher. Il y en a certains, il faudra plutôt mettre les formes et on sait pas tout se faire. Donc en fait, c'est un très très bon apprentissage. Et puis comme le disait Augustin, on se reprend, c'est-à-dire que ça m'est arrivé souvent, je dois bien l'avouer, que l'après-midi suivante, devoir aller frapper à la porte de mes frères pour demander pardon pour des paroles oui. Un peu plus hautes.
Donc ça veut dire que le sport, le football en particulier, peut être aussi le lieu de l'apprentissage, de la réconciliation. C'est pas rien ça, Augustin.
Oui, alors justement, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas, mais depuis 2010 a été choisi un saint patron pour les footballeurs, en la personne de Saint-Louis Crozopi, qui est un oratorien italien du 19e siècle, et qui a été choisi notamment parce que, bon, c'était un éducateur, il s'occupait des orphelins, des pauvres, et il a été choisi notamment parce qu'il appelait à une grande charité, à une persévérance aussi dans les épreuves, quand les jeunes orphelins avaient des difficultés. Mais voilà, le point principal et majeur, c'est la charité. Et je pense que dans tout sport, il y a cette charité qui s'exerce et qui doit s'exercer justement dans cette confrontation. Voilà.
Charité donc qui passe par la réconciliation, en tout cas et la réconciliation peut être une des formes éminentes de la charité. Et vous l'avez dit, vous avez employé le mot persévérance, le sport peut forger et forge notre volonté, notre ténacité dans l'épreuve. Et Père Grégoire, en quoi ça peut nous servir pour mener le bon combat de la foi? C'est pas étranger finalement à ce combat spirituel auquel nous sommes appelés que nous sommes appelés à vivre finalement.
Alors, le bon combat de la foi, et puis je dirais peut-être le combat de la vie, enfin le mot peut-être trop fort, mais je veux dire toute œuvre humaine, et encore plus évidemment œuvre spirituelle, nécessite de la persévérance. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de grand et de beau qui puisse se faire sans effort. Je pense pas, même les personnes les plus douées, même les personnes, je veux dire, il faut même l'artiste le plus performant, il doit apprendre la technique, il doit se coltiner le travail, la persévérance pour arriver à quelque chose de grand et de beau qui vaut quelque chose. Eh ben, elle est nécessaire. Alors, elle est nécessaire dans la vie de tous les jours, dans la vie humaine, et évidemment, je dirais encore plus, mais de façon normale et naturelle, dans la vie spirituelle, la relation dans la charité, comme le disait Augustin, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui pour durer, pour grandir, pour s'épanouir, pour produire ses fruits, bah, demande effectivement la persévérance, la constance, la fidélité.
La constance, la fidélité, la persévérance, parce que certaines situations qui nous paraissent catastrophiques, parfois, si nous acceptons de vivre, eh bien, fidèlement, on peut aussi expérimenter que les choses peuvent se retourner, qu'il y a des solutions qui peuvent naître, qui peuvent émerger. Timothée Besson, c'est ça l'intérêt finalement d'être persévérant. Et c'est vrai que pour faire l'analogie avec un match de football, il y a parfois des situations assez impressionnantes de match qui se retourne parce que les joueurs n'ont rien lâché.
Voilà, c'est ça. Donc on joue jusqu'au bout. Alors nous, on dépasse souvent les 90 minutes au séminaire, mais voilà, cette persévérance, elle nous apprend que c'est jamais terminé et puis surtout qu'il y a toujours une marge de progression. On va pas s'arrêter. On n'est pas arrivé au bout. Il faut y aller. On va se dépasser. On va y aller pour l'équipe. On va y aller aussi pour soi parce que il y a aussi une vraie joie à se donner et à avancer ensemble. Et voilà. Et puis moi, je tiens à souligner quand même qu'on a un supérieur qui vient jouer avec nous au foot. Voilà, c'est quand même un bel exemple d'avoir un prêtre avec nous, notre supérieur, qui joue et qui persévère aussi, qui, malgré le poids des années, continue de venir sur le terrain.
Donc une petite pique en passant pour le supérieur du séminaire, c'est sympa. Bon, je sais pas si vous allez être ordonné diacre en septembre.
Non, il faut dire que c'est un mur en défense.
C'est un mur en défense. Alors, revenons quand même à cette image de la vie spirituelle. Augustin Roquefort, c'est pas trop de dire finalement que le sport est une image de la vie spirituelle. On parlait de persévérance à l'instant. La persévérance, ça sert aussi à entrer dans l'espérance.
Oui, tout à fait. Déjà l'espérance d'une progression, si on parle foot stricto sensu. Je voulais juste rajouter que effectivement dans ce dépassement de soi, je trouve que on arrive finalement à se connaître soi-même. Il y a une forme de connaissance de soi aussi dans le sport et dans le foot en particulier, de connaissance de ses limites notamment. Et parfois, ce qui fait un peu difficulté dans nos vies, c'est qu'on ne sait pas exprimer nos limites. Et je trouve que c'est vraiment très beau de pouvoir très simplement avec nos frères partager nos limites ça va pas, faut que je me calme, est-ce qu'on peut échanger de place, voilà, etc. Et effectivement vous parliez de persévérance et d'espérance. Je trouve que dans le sport en particulier, ce qui est aussi important à souligner, c'est que on prend conscience qu'on a un corps. Et on fait honneur en cela à l'incarnation du Christ, quoi, hein, qui s'est fait aussi lui-même homme et qui a pris corps. Et c'est aussi dans cette dimension de respect vis-à-vis de ce corps qu'on fait honneur aussi à l'humanité du Christ, humanité qui était glorifiée à sa résurrection. Et on entre aussi dans cette espérance-là, et on touche du doigt aussi par ce développement physique, peut-être aussi, alors je vais peut-être pas dire un corps glorifié, mais pour certains peut-être un petit peu, mais non, mais en tout cas voilà, participation à l'humanité du Christ.
Ouais. Bon, on voit bien, alors effectivement, sans forcer trop l'analogie, que le sport nous dit quelque chose des vertus qui sont au cœur de la vie chrétienne, ces vertus qu'on appelle théologales par Grégoire, foi, espérance, charité. L'analogie est quand même assez éloquente.
Oui, alors là effectivement peut-être qu'on va un petit peu loin, mais de fait ces vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, elles se vivent dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, et elles y trouvent un écho et on peut y trouver une analogie. Oui, c'est vrai, effectivement. J'avais pas, vous voyez, vous me faites toucher du doigt quelque chose que j'avais pas complètement formalisé, oui.
Foi, espérance, charité.
Dans le foot, oui.
D'accord. Dans le football, je sais pas, c'est peut-être l'idée d'un prochain mémoire. Non, Timothée.
Je le laisserai à mes frères. Voilà, moi, je lis mémoire. Ça ira. Je joue au foot, moi.
Voilà, le bon combat de la foi. Vous parliez d'un saint à l'instant. Est-ce que vous pouvez évoquer une autre figure spirituelle qui peut être parlante pour les jeunes d'aujourd'hui, une figure spirituelle de jeune qui a pratiqué le sport et qui voyait aussi dans le sport l'occasion de manifester la charité. Vous pensez à qui d'autre en particulier? J'aimerais peut-être que vous nous évoquiez Pier Giorgio Frassati, ou il y a Dominique Savio également.
Oui, tout à fait. Je pensais à Pier Giorgio Frassati. Grand alpiniste devant l'Éternel. Dominique Savio aussi, tout à fait. Petite anecdote de Dominique Savio, je crois que c'est Don Bosco lui-même qui lui pose la question. Il était en train de jouer au foot, justement, et il lui pose la question, et si... Ah non, c'était un ami, un collègue. Bon, enfin bref, quelqu'un lui pose la question, et si dans une heure tu meurs, qu'est-ce que tu ferais? Et lui disait, je continuerai à jouer au foot. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi de cet instant présent qui est vécu dans le sport. Et dans ces figures de sainteté, on voit que on est appelé aussi à vivre ces instants présents dans ce qui nous est donné de vivre. Ouais.
Football et vie spirituelle, même combat, c'est la question qu'on se pose jusqu'à 10h dans Le Temps de le dire ce matin. Restez avec nous, le Standard ouvre dès à présent. Père Grégoire Kohn-Probst, Timothée Besson, Augustin Roquefort sont mes trois invités à l'occasion de la 14e édition du tournoi national de football interséminaire. On se retrouve dans une petite minute en direct sur RCF.
Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
Le supérieur du séminaire provincial de Lyon, le père Grégoire Kohn-Probst, et deux séminaristes de ce diocèse, Augustin Roquefort et Timothée Besson, sont mes invités jusqu'à 10h pour nous parler du tournoi de football national interséminaire organisé ce samedi à Lyon. Et au-delà de ce tournoi, nous dire de quelle manière le sport peut être une image éloquente pour mieux appréhender la vie spirituelle de tout baptisé. On l'a dit, mais j'aimerais qu'on développe un peu plus. Père Grégoire, le corps, c'est souvent le grand oublié. Le sport, finalement, rappelle aux séminaristes qu'ils en ont un.
Alors non seulement il le rappelle, et puis il honore son besoin, et à travers le corps, il y a aussi un certain nombre de choses qui je veux dire, nous sommes un, quoi, je veux dire, le corps, l'âme, l'esprit, tout ça forme une personne humaine, et il y a beaucoup de choses qui se vivent par le corps et qui ont des répercussions dans la personne en elle-même, quoi.
Donc on peut avoir la tentation, Timothée, d'oublier son corps quand on est séminariste et avoir finalement une image de la vie chrétienne très éthérée. Ça peut être la tentation.
Alors ça peut être une tentation. Moi je pense que c'est assez rare aujourd'hui, parce que en fait quand on oublie notre corps, il se rappelle à nous. Donc en fait je pense que aujourd'hui c'est pas la plus grande tentation des séminaristes d'oublier son corps. On a une formation très équilibrée, c'est vrai, qui nous rappelle qu'on a des besoins et que notre corps en a et qu'il faut les honorer. En tout cas, moi, j'ai jamais eu cette impression-là qu'il fallait,
Et qu'est-ce que nous rappelle notre corps, finalement, Augustin? Ce sont les limites inhérentes à notre condition.
Alors les limites, mais aussi toute la beauté en fait d'avoir un corps. C'est vrai que c'est on a tendance souvent à souligner les points négatifs du corps, mais c'est en fait plein de points positifs et de merveilles en fait. Hein.
Qu'est-ce qui est positif dans le corps? C'est le lieu de l'expression du don.
Alors exactement, oui, tout à fait, c'est très bien dit. En fait, il nous donne des capacités déjà d'entrer en relation. Donc ça c'est une merveille aussi. Il faut s'en émerveiller. Et aussi voilà, capacité de faire plein de choses. C'est quand même assez dingue de se dire que avec notre corps, ben les animaux peuvent pas jouer au foot. Hein. Donc on a cette agilité, on va dire par exemple à jouer au foot. Enfin voilà, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à souligner. En tout cas voilà.
Concernant justement la formation et l'exigence de la formation pour les futurs prêtres, Père Grégoire, la formation du corps dans l'exercice sportif ou dans l'exercice spirituel, c'est pas à opposer. Là encore, j'insiste peut-être, mais peut-être que vous me direz le contraire, mais il n'y a pas encore cette tendance-là à opposer les aspects du corps et de la vie spirituelle.
Alors, comme l'a dit Timothée, je pense quand même que ça a pu peut-être être le cas à une certaine époque. Bon, c'est toujours un danger hein, de se réfugier dans une espèce de bulle spirituelle et d'oublier la dimension incarnée. C'est vrai que c'est un danger, mais qui est quand même pas le plus courant chez les séminaristes, en fait.
Et quand c'est le cas, vous n'hésitez pas à interpeller le séminariste qui pourrait se réfugier dans une forme de spiritualisme. Vous l'interpellez, vous le...
Ah ben, il faut l'interpeller, puis il faut surtout qu'il s'en rende compte. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de le lui dire, il faut qu'il l'intègre, il le comprenne et que petit à petit ça puisse effectivement changer, quoi. Ça, bien sûr, oui, ça c'est quelque chose dont la personne doit prendre conscience. Mais c'est vrai que c'est quand même pas le plus courant. Il y a au séminaire, il y a aussi des cours de chant, ils font la cuisine aussi. Enfin, je veux dire, la vie concrète normale de tous les jours d'une personne normale, finalement, elle est vécue aussi au séminaire d'une certaine façon.
Et en quoi l'expérimentation des limites du corps, mais aussi des aspects positifs du corps, on parlait de dons à l'instant, prépare à assumer la charge du ministère de prêtre? En quoi c'est important finalement que ce soit que ça fasse partie de la formation dans cet objectif-là?
Alors d'abord, encore une fois, c'est d'abord on peut pas être prêtre, on peut pas s'occuper des autres si déjà on n'a pas une sorte d'unification personnelle intérieure. Et donc alors si la place du corps aujourd'hui n'est pas, je dirais, elle est pas mise de côté de façon globale dans la société, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc parmi les jeunes qui rentrent au séminaire, donc effectivement c'est pas l'oubli du corps qui est le problème. En revanche, c'est sa bonne place, c'est l'intégration de l'ensemble de ce qui constitue une personne qui doit être faite de façon intégrée, de façon unifiée. Donc c'est ça l'enjeu aussi de la formation. Et c'est ça l'enjeu de la formation humaine en particulier. Donc effectivement, pour pouvoir être prêtre et avoir une relation donc à la fois ajustée avec le Seigneur, mais aussi avec les personnes dont on a la charge, eh bien il faut déjà avoir une personnalité unifiée. Et donc alors tout ce qui va concerner la formation humaine et donc l'intégration de ces 10 différents éléments de ce qui nous constitue, bah, conduit du coup effectivement à avoir ensuite un pasteur équilibré qui peut prendre soin de ceux qui lui sont confiés.
Parce qu'on peut le dire, hein, Augustin et Timothée, vous devez aussi peut-être le percevoir, le corps, d'une certaine façon, dans la charge du ministère de prêtre, est mis à rude épreuve à travers le célibat consacré, à travers aussi toutes ces heures données aux paroissiens, la disponibilité du prêtre. Vous l'avez en tête, vous, en tant que séminariste, dans la perspective de cette charge que vous êtes appelé à remplir dans quelques années?
Bien sûr, moi ça fait un petit moment que je suis au séminaire, ça fait du coup un petit moment que je fais du sport toutes les semaines, je fais 2 heures de sport par semaine, et aujourd'hui moi je ne me vois pas avoir une mission dans une paroisse sans avoir ce temps de sport dans la semaine, parce que en fait je ne saurais pas écouter mes paroissiens ou même aller prier si j'ai pas ce temps-là pour me dépenser physiquement. En fait, de temps en temps, il peut y avoir une charge mentale un peu importante. Les gens nous confient nous confient des difficultés. On les écoute, on les porte dans la prière. Voilà, on peut avoir aussi des combats spirituels. On a plein de choses. On peut de temps en temps avoir des tensions relationnelles autour de nous. Donc, en fait, c'est important d'avoir des lieux où aussi on peut, voilà, un peu lâcher du lest et puis être tout tout au présent, laisser derrière soi un peu les soucis de la paroisse et voilà et se donner comme ça là où on est. Et ça, moi, c'est sûr que dans ma vie de prêtre, je pense que c'est hyper important.
Et même question à votre collègue séminariste qui est à côté de vous.
Alors oui, tout à fait. Le sport, c'est vraiment un lieu de décompression déjà. C'est vrai que dans la vie des études au séminaire, déjà, on le perçoit vraiment.
C'est-à-dire mais que, dans ma question, ouais. C'était aussi dans la perspective de la charge ministérielle.
Oui. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ce que dit Timothée en fait. Je pense qu'il a fait pas mal le tour des choses, mais ce qui est certain, c'est que voilà, dans la vie, dans un ministère sacerdotal, je pense qu'il y a aussi pas mal de pression ou de stress ou tout simplement de besoin de prendre l'air. En fait, le sport fait partie de cet équilibre-là, et c'est aussi le lieu pour évacuer, tout ce dont on a évacué et de prendre, de reprendre une forme d'énergie, quoi.
Alors, j'aimerais m'arrêter un instant sur la notion du corps dans la théologie comme dans la Bible, parce que on peut le dire, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est une notion protéiforme. Le corps, c'est aussi toute l'Église que le prêtre a pour vocation, en vertu de sa charge de pasteur, de rassembler. Et j'aimerais vous entendre là-dessus, Père Grégoire Kant-Probst, sur ce corps qui est l'Église et que le prêtre a pour charge de rassembler. C'est une belle image de et ça nous invite à élargir notre regard sur le corps.
Oui, alors, excusez-moi, je voudrais aussi rebondir un tout petit peu sur ce qui a été dit précédemment, et puis je reviens à votre question. En parlant d'éléments importants pour décompresser, pour porter une charge pastorale, on a parlé du sport. En fait, l'important, c'est que les prêtres, et donc les séminaristes en formation, aient des lieux, je dirais, qui les motivent, un peu humainement. C'est-à-dire ça peut être d'autres activités que le sport, hein, évidemment. Ça peut être de la musique, ça peut être du bricolage, ça peut être du jardinage, ça peut être d'autres activités où, effectivement, quand il y a un moment de pression, eh bien, ils pourront, je dirais, se ressourcer au moins humainement. Voilà. Donc, c'est pas simplement le sport. Maintenant, à votre question, oui, effectivement, l'image du corps est une image biblique et paulinienne pour parler de l'Église, une image majeure. Alors, chez saint Paul, elle est surtout associée au fait que chacun trouve sa bonne place. C'est-à-dire que l'Église est le corps du Christ et chaque membre de l'Église, eh bien, a sa bonne place pour le bon fonctionnement du corps. Oui.
Et justement, le prêtre comme pasteur a pour charge de donner à chacun sa place, mais de veiller à ce que chacun peut-être prenne sa place dans ce corps qui est l'Église. Parce que là encore, moi j'aimerais insister sur le fait que vous soyez les uns les autres en formation pour devenir prêtre. Donc c'est cette charge-là à laquelle vous vous préparez.
Alors ça fait partie effectivement de la mission, de l'une des missions du prêtre. Effectivement, en conduisant le peuple de Dieu, le troupeau qui lui est confié, de permettre à chacun de donner le meilleur de soi-même, d'être là où il est fait pour être d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, qu'il puisse trouver sa place au sein de la communauté chrétienne. Oui, ça fait partie de la mission du prêtre, effectivement.
Augustin et Timothée, une observation à ajouter là-dessus?
Alors oui.
Sur le prêtre comme ministre d'unité, comme rassemblant ce corps qui est l'Église. Et d'ailleurs, ce rassemblement, il se fait de façon assez large. C'est-à-dire que le rassemblement, c'est pas simplement les catholiques qui vont à la messe tous les dimanches. C'est bien au-delà.
C'est ça. Et quand on fait du sport, alors donc moi je suis plutôt du côté du foot. C'est vrai que moi je le vois, je l'expérimente en paroisse. Le fait d'organiser un foot avec les pères de famille, avec les jeunes, ça va forcément être un outil pastoral important où on va pouvoir aussi peut-être sortir de certains clichés. Moi je suis content de temps en temps d'aller jouer avec mes amis. Au foot, qui voilà, alors il y en a certains qui savent pas que je suis séminariste, qui le découvrent à la fin. Donc c'est bien aussi, je veux dire, le sport, ça rassemble, c'est un témoignage. Il y a un côté évangélisation. Au séminaire, par exemple, on joue sur un terrain autour de bars. Moi, ça fait 10 ans que je vois des jeunes qui de temps en temps viennent jouer avec nous. Je les ai vus grandir. Et ben c'est super. La plupart sont musulmans. Nous, on finit toujours le match de foot par un temps de prière. Bah voilà, on témoigne très simplement de ce qu'on est, de ce qu'on vit. Et puis, on le témoigne dans la manière de jouer aussi, dans notre manière de jouer. En faisant attention à ce que chacun ait sa place, même les plus petits.
Donc, faire du football, c'est aussi un lieu, un terrain de mission d'évangélisation.
Oui, alors c'est tout à fait la remarque que je voulais faire. Merci Timothée. En fait, on parle du foot. C'est clair que c'est un lieu de mission avec les plus jeunes, avec les ados, avec les plus grands. J'ai des neveux qui font du foot dans leur paroisse avec le prêtre et plein d'autres jeunes et des pères de famille, et ils sont ravis quoi. Ah, le prêtre fait du foot. Ah, mais je savais pas que c'était possible. Et toi aussi, oncle Gus, tu fais du foot. Enfin voilà. Mais il y a le foot, mais il y a aussi, par exemple, je pense au scoutisme. Moi, j'ai été pendant 12 ans scout. Et l'aumônier scout qui suit la troupe. Moi, j'étais dans une troupe alpine, donc c'était quand même un sport assez exigeant. C'est assez incroyable aussi de témoignages et de voir que le prêtre est équilibré aussi dans tout ce qu'il vit et qui vit avec nous tout ce qu'on vit quoi dans ces dimensions là.
La dimension aussi le fait que le prêtre prend sa place aussi en tant que frère au foot. On est un joueur parmi d'autres joueurs. Et ça, c'est très important parce que ça permet aussi aux gens de se rendre compte que un prêtre, c'est pas déjà il va
c'est pas un super laïc ou un super baptisé.
Exactement. Et les relations fraternelles qu'on peut nouer en paroisse, en faisant du sport, dans des lieux qui sont pas forcément les lieux où on rencontre nos paroissiens aussi. Hein. Je connais un prêtre qui fait du rugby et il le fait sur sa paroisse, mais il le fait pas avec des paroissiens. Et ben c'est très important parce que les relations fraternelles qu'on noue là, qu'on va nouer dans ces lieux-là, sont très importantes pour l'équilibre du prêtre et pour l'équilibre de ceux qu'il rencontre.
Allez, il est 9h45 sur RCF, vous êtes à l'écoute du Temps de le Dire. L'émission se poursuit en musique. Alors je précise que le standard n'est pas encore ouvert. Petit problème d'arrivée de notre standardiste. Donc je vous tiendrai au courant si Pierre-Henri Paget, qui réalise cette émission, me dit que Catherine est arrivée. Donc vous pouvez appeler le standard. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Like You, c'était The Dandy Warhol sur RCF.
Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
Et c'est le numéro de téléphone qu'a composé André qui nous appelle de Bruxelles. Je le laisse intervenir tout de suite en direct. Bonjour André.
Oui, bonjour. Voilà, moi, ce que je voulais partager, c'est que bon, pour moi, je n'ai jamais aimé le sport de compétition. Et bon, je veux dire que là, ce qui est traité dans l'émission, c'est dans un cadre tout à fait particulier qui fait que bon, la question de la compétition est compensée par des tas d'autres facteurs qui vont presque quasiment au sens inverse tous, quoi. Donc bon, mais en général, quand on entend parler à la radio de ce genre de choses, on apprend qu'il y a des gens qui gagnent des sommes astronomiques avec ça. Bon, il y a des supporters qui se tapent de fou ou bien des bad blocks qui s'en mêlent, je ne sais pas quoi, ou des gens qui enveniment tout. Bon, je veux dire que c'est pas vraiment heureux, sans compter les gens qui sont occupés dans leur siège, dans leur fauteuil, à regarder la télé en mangeant des fixes, quoi. Ce qui est au contraire de ce qui va dans le sens de la santé promue par le sport. Bon, moi, je pense qu'il y a des exemples, ça marche plutôt bien, mais localement, des quartiers, type rencontres entre des jeunes immigrés, ou plutôt plus immigrés, qui ont des problèmes avec la police et qui font un match de foot avec eux, ce qui contribue un peu à changer les choses, bon, à changer social au Brésil ou tout ça, mais c'est des choses dont on ne parle jamais. Donc, je dis, moi, je pense plutôt qu'il faudrait développer les activités physiques de coopération. Je ne sais pas si on en a beaucoup en groupe, mais au niveau individuel, ça existe, type Tai Chi Chuan, etc., quoi. Donc, le yoga aussi, pour certains. Enfin, bon, moi, je pense plutôt à ce genre de choses. S'il existerait des sports de coopération, pourquoi pas, mais j'en connais pas. Hein. Bon, voilà.
Merci beaucoup, André. Des réactions, Père Grégoire, Timothée, Augustin, à ce que vous venez d'entendre. D'une certaine façon, est-ce qu'on peut en dire que le tournoi national de football interséminaire consiste à changer l'image négative que les uns et les autres peuvent avoir sur le football? Ça peut aller jusque-là, non, Père Grégoire?
Alors, peut-être que alors si je trouve la question assez intéressante, mais peut-être que je n'opposerai pas sport de compétition, mais peut-être sport professionnel et sport amateur. Parce qu'effectivement, dans le sport professionnel, alors je ne vais pas critiquer le sport professionnel, il y a beaucoup d'apports, mais effectivement, c'est là où on voit les travers qu'a souligné notre auditeur, concerne le sport professionnel, effectivement, avec des sommes d'argent, avec des passions, avec des tas d'autres choses qui gravitent autour et qui peuvent être assez éloignées de l'esprit sportif. Donc effectivement, ça c'est assez juste. En revanche, dans le sport amateur, il y a tout de même de la compétition, et le sport de compétition, en lui-même, je trouve qu'il a une valeur. C'est-à-dire
oui, c'est ce que vous disiez au début de l'émission.
Et oui, c'est qu'il permet de donner le meilleur de soi. Et même, non seulement le meilleur de soi, mais c'est pas une machine qui me fait donner le meilleur de moi-même, c'est l'autre, c'est une autre personne, c'est la confrontation à l'autre, mais c'est-à-dire que l'adversaire, c'est aussi la personne qui, grâce à qui je peux aller plus loin que ce que j'aurais été si j'avais été tout seul. Oui. Donc il y a une véritable vertu, je trouve, humaine et même chrétienne, à la compétition finalement. Donc,
Oui. Augustin et Timothée, une rapide réaction avant d'accueillir une autre auditrice.
Pour moi, tout a été dit.
Tout a été dit.
Oui, oui. C'est vrai qu'on a besoin de ces sports collectifs, je pense. Après, moi, personnellement, j'ai aussi besoin de sport, enfin, d'aller courir, voilà, de sport aussi ou un peu plus désertique, on va dire. Enfin voilà, je pense que ça contribue aussi à un équilibre dans le sport.
Allez, nous accueillons maintenant Céline qui nous appelle de Carpentras. Bonjour Céline.
Bonjour Manuel.
Je vous écoute, nous vous écoutons, allez-y.
Bonjour.
Alors, nous vous entendons très mal, voilà, là c'est mieux. Bonjour Céline. Ah, est-elle avec nous Céline? Non, on va peut-être attendre qu'elle nous rappelle parce que là j'entends la tonalité donc ça ne va pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a Noémie Marijon qui a passé une tête dans ce studio, n'est-ce pas? Oui, avec le micro ouvert, s'il vous plaît. Bonjour Noémie.
Bonjour Antoine.
Non, vous entend très mal. Je crois qu'il y a un petit problème. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant un micro avec voilà.
Oui.
Bon, voilà, c'est parfait. Nous y arrivons.
Oui.
Je rappelle juste à nos auditeurs que vous êtes non seulement notre chroniqueuse télé chaque semaine dans la matinale, mais aussi vous êtes la bibliothèque du séminaire et spécialiste de l'histoire du diocèse de Lyon. J'aimerais vous laisser la parole parce que, je le disais en introduction, le séminaire de Lyon va fêter ses 350 ans et c'est à l'occasion de cet anniversaire qu'a lieu ce tournoi de football interséminaire. Alors, le séminaire de Lyon a une histoire riche et mouvementée, je crois, Noémie.
Ah, mouvementée, oui, ça c'est sûr, puisque il a été Le premier séminaire est ouvert en 1669, mais la grande particularité du séminaire de Lyon, c'est qu'il déménage extrêmement souvent. Donc de la Croix-Paquet, donc près de la Croix-Rousse, jusqu'à Saint-Just, puis un petit détour en banlieue à Sainte-Foy-lès-Lyon, avant de revenir tout près de Fourvière. Le séminaire a eu moult péripéties, donc c'est ce qu'on va essayer d'honorer pour ces 350 ans qui auront lieu dimanche. On fait une journée porte ouverte qui commencera par une messe à 10h30 à la cathédrale, et puis ensuite toute une journée autour de la rencontre des prêtres de demain qui va se passer au séminaire. Donc vous pourrez visiter les lieux, vous pourrez parler avec des séminaristes, puisqu'il y aura les séminaristes du séminaire de Lyon, mais aussi quelques séminaristes qui seront restés du tournoi de la veille. Donc ça va être un grand moment de fête et de joie, où on va pouvoir vous expliquer ce qui se passe dans un séminaire, qui est un lieu qui est toujours un peu mystérieux. Donc vous allez pouvoir rentrer, rencontrer nos jeunes sportifs et ces jeunes gens qui sont là et qui se forment tout au long de l'année et pendant 7 années de leur vie. Donc un investissement conséquent, voir les bâtiments qui sont relativement récents à Lyon, hein, puisque nous sommes dans ce séminaire depuis 2009. Et voilà, ça sera un moyen de découvrir aussi l'histoire du séminaire.
Alors justement, moi en préparant l'émission, ce qui m'a marqué, c'est le fait que le séminaire de Lyon ait été pourvoyeur de saints, j'allais dire, hein, depuis le début de son existence.
Alors complètement, on a essayé de faire une petite exposition où on présente 7 figures de saints, plus de saints ou de bienheureux. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des figures extrêmement diverses. On va avoir des profils très différents de jeunes prêtres qui, dans l'histoire, vont avoir été soit des orphelins, soit des gens issus de la haute bourgeoisie.
Alors, il y a des saints célèbres.
Il y a des saints très célèbres. Le curé d'Ars. Alors, le curé d'Ars, j'avoue...
Non, pas exactement. Le curé d'Ars, il a pas été formé à Lyon.
Alors, si, il a été formé à Lyon. Il a été formé un mois à Lyon. C'est un tout petit peu le... la problématique, c'est-à-dire que le curé d'Ars en particulier fait partie de ces 5 curés qui avaient un niveau, en tout cas scolaire, un tout petit peu en dessous, et donc avec beaucoup de mal à apprendre le latin qui était nécessaire à l'époque pour faire ses études au séminaire, c'est moins le cas maintenant. Et donc il a été formé un petit peu à part, mais il a passé quand même un mois dans le séminaire Saint-Irénée. Donc on est très fiers de l'avoir accueilli dans nos murs, mais il y a aussi d'autres figures passionnantes comme Marcelin Champagnat, Jean-Claude Collin, Louis Kerbs, ou encore Antoine Chevrier et Paul Couturier, qui ont produit des grandes choses pour l'Église.
Allez, on revient à l'émission autour du football avec ce message d'Alex de Mâcon. C'est mieux d'entendre parler du foot dans ce contexte que lorsque c'est médiatisé et que cela brasse des millions, nous dit Alex. Merci pour ce message. Et comme promis, nous retrouvons Céline, je crois, nous l'avons retrouvée. Elle nous appelle de Carpentras. Bonjour Céline. Céline, est-ce que vous êtes avec nous? Céline, entendez-vous?
Bonjour.
Ma voix. Bonjour Céline. Allez-y.
Oui, je suis avec vous. Je vous entends très bien. Oui.
Nous vous écoutons.
Allô, oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour. Alors,
Céline, allez-y, posez votre question.
Alors, je voulais témoigner du fait que le dimanche... Alors, j'ai pas de question. C'était juste un témoignage que nous voulions donner. Le dimanche, dans la paroisse de Carpentras, le groupe des servants d'hôtel et de l'aumônerie vient se retrouver sur le terrain de foot municipal avec des papas, des diacres et les jeunes pour jouer tous ensemble au foot et faire unité entre les plus petits, les plus grands et en général 12 à 20 jeunes tous les dimanches qui se retrouvent comme ça. Voilà, et que ça portait du fruit.
Merci beaucoup Céline pour ce témoignage. Une réaction les uns et les autres sur ce sport, ce football, mais aussi d'autres sports comme lieu d'unité, de fraternité. C'est un bon moyen aussi d'enraciner la paroisse, les paroisses dans ce souci d'unité.
Bien sûr, c'est pastoralement, j'étais récemment à un pèlerinage à Assise et c'était sympa de pouvoir parler foot et pouvoir jouer au foot avec les jeunes. En paroisse, c'est pareil, c'est des lieux où on peut on se rencontre, on joue ensemble et on construit des belles choses. Donc merci au foot de pouvoir nous permettre de faire ces belles rencontres et puis d'être des témoins du Christ sur les terrains.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Il nous reste une trentaine de secondes. Vous qui êtes en formation pour devenir prêtre, sainteté et puis saint S-A-I-N et saint S-A-I-N-T, c'est ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre formation?
Oui, tout à fait. Vous pouvez prier pour que l'on devienne des pasteurs selon le cœur du Christ, ça c'est sûr. Et prier pour qu'on reste unis dans l'Église de France et l'Église du monde. Alors juste avant, je voudrais quand même faire honneur à toutes les familles, parce que on reçoit 350 séminaristes et religieux, à toutes les familles qui nous soutiennent. On l'a entendu via Céline de Carpentras, qui nous soutiennent. Il y a plus d'une centaine de familles qui ont proposé d'accueillir des séminaristes pour les logements, tout ça. Donc voilà, je tenais quand même sur votre antenne à les remercier tous pour leur aide et leur contribution.
Eh bien, on termine par ce merci. Moi aussi, je vous remercie d'être venu dans cette émission ce matin pour nous parler de ce tournoi interséminaire, ce tournoi de football qui a lieu ce samedi à Lyon à l'occasion du 350e anniversaire du séminaire de Lyon. Merci à tous. Merci à Pierre-Henri Paget à la technique, Catherine au standard. Et je laisse la parole à qui ? À Vincent Bellotti, est-ce qu'il est dans le coin ?
Oui, oui, je suis là, je vous vois d'ailleurs. On va parler des écrans.
Et moi, je ne vous vois pas.
Eh bien, on va parler des écrans lorsqu'ils sont bien allumés. Antoine Bélier, les écrans qui ont envahi notre quotidien, on les accuse de tous les maux, alors qu'en est-il réellement ? Comment trouver un juste équilibre entre utilisation excessive et interdiction pure et simple en famille ? On en parlera avec nos invités. À tout à l'heure.